Encore une fois, en fin de semaine, il y aura beaucoup d'action dans le monde du sport. On a beau lancer la saison de la NFL, le baseball majeur qui est à 3 semaines de terminer sa saison, les matchs préparatoires au hockey junior, les camps d'entraînement de la Ligue nationale qui débutent, mais il y a un seul nom à la grandeur du Canada qui va faire résonner dans les discussions d'amateurs de sport, et c'est celui de Bianca Andreescu, qui va jouer demain 16h sur le Central à Flushing Meadows, la finale du US Open contre Serena Williams. On va essayer de décortiquer cette ascension fulgurante avec une fille qui s'y connaît beaucoup, c'est Stephanie Miles qu'on joue à l'instant. Elle est rédactrice en chef pour tennis.life. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Comment ça va?
Oh, écoute, ça va bien. Hein? Le tennis canadien qui est dans la mire de tout le monde, je trouve ça, comme joueuse de tennis, pas mal de fun.
Absolument. Vous êtes à New York, vous assistez au match de Bianca Andreescu. On a échangé des messages textes hier pendant le match. Dans quelle mesure, vous, qui êtes une spécialiste, vous êtes surprise de voir Bianca en finale?
Ben, je suis pas surprise de l'avoir bien performée. De là à se rendre en finale du US Open, dans son premier US Open, c'est quand même inespéré, inattendu, mais il faut que toutes les choses tournent bien. Il faut qu'elle garde la santé, et puis il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de très bonnes joueuses, de championnes dans sa section du tableau, puis elle avait pas besoin de les jouer parce que d'autres filles les avaient déjà battues. Exemple, ouais. Simona Halep, exemple, Sloane Stephens, qui a gagné l'US Open il y a 2 ans. Alors, ça prend un petit peu de chance, un petit peu de santé, et puis un sens de l'opportunisme, et aussi, bien sûr, du talent.
On la découvre, évidemment. On l'a vu jouer à Indian Wells. On la suit depuis ce temps-là. Tous les amateurs à l'écoute ce soir de mon émission ont regardé les matchs dans les derniers jours. Qu'est-ce qui fait la différence? Elle a dit hier après le match, je joue mieux quand je suis down. Et là, down, évidemment, je veux traduire en temps réel pour les auditeurs. C'est pas quand elle est dépressive, c'est quand elle est down dans le pointage. Quand elle est en retard dans le pointage, c'est là qu'elle joue son meilleur tennis. Est-ce que, d'une part, vous allez me dire que ça démontre une force de caractère, mais est-ce qu'elle joue pas un peu avec le feu?
Écoute, c'est une réponse comme celle-là, c'est vraiment une réponse à une question précise. Hein? Exemple, comment ça se fait que tu joues si bien quand tu es en arrière dans le pointage?
Okay.
Alors, en principe, elle ne veut pas être dans cette situation-là.
C'est sûr,
et elle ne fait pas exprès aussi, mais en même temps, la capacité de pouvoir élever son niveau de jeu ou de trouver des solutions lorsqu'on est un petit peu dans le pétrin, c'est vraiment un signe d'une future grande championne et d'une très bonne compétitrice. Et puis l'avantage qu'Andreescu a à comparer à d'autres, c'est qu'elle a beaucoup d'options dans son jeu. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, si elle peut le voir, elle l'analyse durant le match, et puis elle a d'autres solutions, d'autres coups à essayer, d'autres stratégies à pouvoir mettre à fond pour essayer de tourner les choses. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que cette année, elle a vraiment eu tellement un grand succès.
OK. Est-ce qu'elle a fait de frapper fort? Je trouve qu'elle frappe fort, à moins que vous me disiez que toutes les filles sur le circuit, le top 10 ou le top 15 mondial, tout le monde frappe fort, mais j'ai l'impression qu'elle a une puissance peut-être que d'autres filles n'ont pas. Est-ce que ça, c'est un avantage pour elle?
Ben, je ne suis pas sûre que c'est vrai, parce que toutes les joueuses frappent fort, en général. Avec la technologie de raquettes et de cordage qu'on a ces jours-ci, et puis que le fait que la plupart soit grande et forte et costaud, c'est généralement ce que la plupart des joueurs font.
Okay.
La différence avec Andreescu est la suivante. La première fois que je l'ai vu jouer, je pense qu'elle avait 14 ans, c'était dans les juniors de Roland-Garros. Elle avait le même genre de jeu qu'elle a maintenant. Elle faisait des slices, elle faisait des amortis, elle montait au filet. Elle faisait toutes sortes de choses que normalement les filles de 14 ou même de 34 ne font pas.
Okay.
Et puis après ça, elle s'est comme écartée un petit peu de ça et elle essayait de battre ses adversaires du fond du terrain. Puis j'ai pas aimé ce développement-là. Je me suis dit, oh non, est-ce qu'elle essaie de changer son jeu naturel? Mais en bout de ligne, ça a peut-être bien payé parce que maintenant, elle est capable non seulement de varier le jeu, mais aussi de rester en arrière et de frapper fort et de faire des coups gagnants de cette façon-là. Et puis, c'est ça, la plupart des joueuses aiment le rythme. ils aiment des filles qui frappent à plat, qui frappent fort, et puis ils font la même chose, et finalement, c'est celle qui fait l'erreur ou celle qui fait le coup gagnant qui gagne. Alors, ils sont tellement déstabilisés par son jeu que puis ils n'ont pas les mêmes armes qu'elle a. Ils sont pas capables de gérer les amortis, des slices, de venir au filet, tout ça. Ils sont pas capables. Ils n'ont pas les armes pour les contrer. Alors, oui, elle frappe fort. Elle frappe une balle qui n'est pas nécessairement à plat. Toujours, elle est capable, mais une balle qui est un petit peu plus pesante, qui a un petit peu plus d'effet, qui remonte un petit peu plus haut pour que les filles ont de la misère à l'attaquer. Mais point de vue puissance, c'est pas, je dirais que c'est pas son meilleur atout.
OK. Son amorti est quand même assez impressionnant. Est-ce que l'amorti, ça peut faire partie d'une certaine stratégie contre Serena ou pas du tout?
Écoute, ça va dépendre, hein, parce que pour pouvoir exécuter les changements de rythme comme elle fait, des slices ou des amortis, tout ça, ça devient de plus en plus difficile à le faire lorsque l'adversaire frappe fort. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui frappent plus fort que Serena. Hein. Et puis, si elle est comme reculée un petit peu à la ligne de fond, si elle doit gérer, défendre la puissance de Serena, ben là, c'est très difficile de créer. Puis c'est un petit peu ça le problème qu'elle a eu au début contre Belinda Bencic hier soir, qui frappe très fort, très à plat, très profond, et puis elle a la difficulté d'exécuter sa variété. Et puis finalement, elle s'est habituée à la vitesse, elle a peut-être reculé juste un petit peu, et puis là, elle a pu se donner de l'espace. Mais Serena Williams et Belinda Bencic, point de vue puissance, point de vue exclusivité, là, écoute, c'est un autre niveau, hein. On verra.
Oui. Dites-moi, évidemment, demain, on s'attend à ce que la foule supporte Serena plus que Bianca, mais est-ce que cette semaine, pour nous, c'est la nouvelle coqueluche au Canada, Bianca Andreescu, mais est-ce que vous avez senti sur place à New York que le public l'avait adopté?
Écoute, c'était peut-être pas le tournoi pour faire ça, parce que normalement, c'est un petit peu difficile d'avoir plus qu'une coqueluche par tournoi. Et ici, au US Open, cette année, c'était Coco Gauff, l'Américaine, qui n'a que 15 ans, qui a quand même fait assez bonne fureur. Alors, durant les premiers tours, Andreescu, sur les plus petits terrains annexes, avait beaucoup de sport, il y avait beaucoup de Canadiens. Et même, dans le premier tour, elle a joué une jeune Américaine qui n'était pas vraiment connue, là, mais quand même, écoute, la majorité de la foule était pour Andreescu. Okay. Donc, c'est le fun. Mais quand elle a joué Taylor Townsend, il y a deux tours, une Américaine, sur le Arthur Ashe Stadium, écoute, la foule était toute pour Townsend. Et puis, Townsend, c'est pas une grosse vedette, là. Alors, je pense que demain, elle va avoir quelques Canadiens, elle va avoir quelques partisans de New York qui aiment prendre pour le underdog, mais à part de ça, écoute, ça va être Serena. Il va falloir qu'elle compose avec ça. C'est normal.
Dites-moi, Stéphanie, vous suivez le tennis depuis longtemps. Après Indian Wells, j'ai trouvé, évidemment, moi, j'étais un simple observateur à distance, là. J'ai trouvé que, parce qu'à Indian Wells, en finale, Bianca avait tellement l'air de souffrir qu'on avait mal pour elle dans le salon en regardant le match. Quand ensuite, elle s'est présentée sur le court à Miami, on a dit « Caroline est revenue vite ». Est-ce que vous pensez qu'après le US Open, elle va prendre une pause, sans dire une longue pause, mais quelques semaines de pause?
Bien, c'est difficile à dire. Hein. Je pense qu'ils ont appris des leçons, point de vue horaire. Et puis, je parlais à Lindsay Davenport, une ancienne numéro 1, il y a quelques jours, et puis elle disait que la plupart des joueuses ne se seraient même pas présentées à Miami. Mais cas, ses parents étaient déjà rendus là, et puis écoute, elle était sur une lancée, elle voulait jouer, mais elle avait déjà mal à l'épaule. Je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'est d'essayer pour un retour à Roland-Garros. Elle est arrivée à la fin du mois de mai, pas de préparation, pas de tournoi préparatoire, l'épaule allait, tenait, sauf qu'elle ne l'avait pas vraiment testée. Et puis elle a réalisé assez vite que non, c'était pas correct. Et puis, elle a manqué Wimbledon, elle a manqué la saison de gazon au complet, elle a manqué tout avant la Coupe Rogers, mais je pense qu'ils ont vraiment, s'assuré que l'épaule était en bonne forme. Et aussi, ils ont engagé un physio à temps plein pour voyager avec elle après Roland-Garros. Alors, et puis, l'avantage du US Open, c'est que, mis à part hier soir, il y avait toujours une journée de congé entre les matchs. Donc, la récup, les soins, tout ça, les traitements, on a pu faire ça, et puis je pense qu'elle s'en est bien sortie. Mais pour la suite, écoute, elle a trois tournois de prévus en Asie. au Japon, puis ensuite deux gros tournois, Wuhan et Beijing, qui sont de l'envergure de Indian Wells, Toronto, etc.
Okay.
Et puis moi, je dirais que Japon, je pense qu'on va oublier ça, là. Mais le problème aussi qui arrive, qu'il faut bien gérer, c'est que lorsque tu arrives dans le top 10 comme ça, là, tout à coup, les tournois, là, ils commencent à appeler l'agent et disent, écoute, on va te passer un petit chèque pour venir jouer ici, venez donc. Et puis, c'est très tentant d'essayer de maximiser. Alors, j'espère qu'ils vont vraiment regarder ça à long terme et qu'ils ont appris des leçons de plus tôt cette année.
OK. Si Bianca s'incline demain, elle va être 8e au monde. Si elle gagne, elle va être 5e. Le parallèle qu'on a, évidemment, c'est le parallèle avec Eugénie Bouchard qui, en 2014, a fait 2 demi-finales et une finale de tournoi de Grand Chelem. Stéphanie, je me fie à vous, évidemment, parce que moi, je suis un simple observateur. Dans quelle mesure vous pouvez convaincre les amateurs de tennis à l'écoute ce soir que ça va être différent avec Bianca versus Eugénie?
Ben, je pense que si le monde ont déjà leurs idées de fait, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Hein? Écoute, on est tous sur Twitter. ça, oublie ça. Mais je dirais que la comparaison est vraiment assez injuste de deux façons. D'un côté, c'est vraiment injuste envers Bouchard de se faire comparer à Andreescu parce que c'est comme si ça rabaisse ce qu'elle a fait en 2014, qui était quand même extraordinaire.
C'était très bien, mais ben
oui, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Mais en passant aussi, elle a bénéficié du même genre de, comme on dit, de draw luck. Parce que à deux occasions, en Australie et puis à Wimbledon, au moins, peut-être même à Roland-Garros, était due pour jouer Serena Williams plutôt dans le tournoi. Quelqu'un avait battu Serena, puis elle a battu la fille qui a battu Serena. Donc ça prend ça.
Okay.
Mais alors de ce côté-là, c'était juste pour Bouchard. Mais en même temps, et puis on ne sait pas encore si Andreescu va s'emporter avec la notoriété et tout ce qu'elle va gagner si jamais elle gagne le US Open. On ne sait pas. Il est trop tôt. Elle a juste 19 ans.
Ouais.
Elle n'a jamais vécu ça. Ses parents n'ont jamais vécu ça. Personne n'a vécu ça. Ça reste à voir.
Okay.
Mais en même temps, Andreescu est une joueuse plus complète, à un plus jeune âge que Bouchard, qui avait des capacités, elle faisait certaines choses très bien, mais ça demandait une confiance totale pour exécuter son jeu. Donc, quand la confiance a commencé à baisser, le jeu aussi. Et Andreescu, c'est pas le même genre de joueur, de joueuse. Alors, on s'attend que non, c'est pas quelque chose qui va durer juste une année, mais écoute, avec du recul, on peut dire n'importe quoi, hein.
Est-ce que les gens qui sont autour de Bianca vont peut-être avoir appris, c'est évidemment, c'est pas les mêmes parents, mais ça peut être Tennis Canada, ça peut être les entraîneurs, ça peut être les physios, peu importe. Est-ce qu'il y a des gens dans l'entourage qui vont peut-être avoir appris des derniers déboires d'Eugénie?
Ben, je pense que Bouchard, en général, a été très mal entouré.
Okay.
Donc, ça aide pas en partant. Sauf que tu peux avoir le meilleur entourage au monde et puis finalement, c'est à la joueuse de gérer, d'évoluer et de vivre sa vie. Hein. Alors, tu peux donner des meilleurs conseils sur la planète puis si la joueuse n'écoute pas, ça donne absolument rien. Donc, ça reste à voir, mais c'est vraiment deux personnes qui sont tellement différentes l'une de l'autre et puis les circonstances sont tellement différentes que je vois pas une reprise. Mais comme je dis, c'est un petit peu injuste que Bouchard, la comparaison va être comme sans arrêt maintenant avec elle, surtout que vraiment elle n'arrache, et puis que cet automne elle redescend au niveau ITF pour jouer des petits tournois. Hein. Puis je pense que ça va être vraiment, déjà en partant qu'elles se sont jouées au mois de janvier, puis qu'elles se sont jouées encore à Toronto, puis que Bouchard a perdu les deux fois, là, je pense qu'à un moment donné, si elle joue ça bien dans les médias, elle pourrait vraiment être un personnage un peu plus sympathique. Elle n'a pas choisi cette route-là, mais elle pourrait, parce qu'à un moment donné, il faut avoir la sympathie pour quelqu'un que ça fait 5 ans que ça dure, et puis que là, maintenant, il y a une petite jeune qui arrive, puis qui prend toute la place, puis qui a des grands succès, et puis qu'on mentionne encore son nom, mais pas en bien.
Je comprends très bien. Un gros merci à Stéphanie Maïs de nous avoir parlé. On invite les auditeurs à l'écoute à vous suivre sur un site qui est très bien fait, tennis.life, L-I-F-A. Un gros merci à vous.
Ah, ça fait plaisir.
Bonne soirée. Stéphanie Miles, une experte dans le monde du tennis, elle-même ancienne joueuse, qui est au US Open. Elle suit en direct ce tournoi majeur. 4e et dernier tournoi majeur. Je vous rappelle, la finale de demain, c'est à 16h. 16h demain, Bianca Andreescu contre Serena Williams. La gagnante fait 3,8 millions de dollars américains. La perdante, 1,9 million. Si Bianca remporte le tournoi, elle va être classée 5e au monde lundi. Si elle s'incline, elle va être 8e au monde. Évidemment, c'est une première finale en carrière lors d'un tournoi du Grand Chelem pour Bianca Andreescu, qui n'a que 19 ans. Son opposante, Serena Williams, 23 triomphes en tournoi majeur. Le record est de 24, ça appartient à Margaret Court. Serena n'a pas gagné depuis l'Australie en 2017 un tournoi majeur. Serena Williams compte 6 conquêtes du US Open en carrière. Et la première fois qu'elle a gagné à New York, c'est en 1999 à l'âge de 17 ans. Elle a maintenant 37 ans. Et Bianca Andreescu n'était pas encore au monde.